Quindi è stato possibile, quando ho detto di figli, no? Con anche il vicino a qua, in modello di Capodonte, a Cassì, lui sono della situazione da lì, e qui è chercheur au CNRS, da Marseille, il physicien, et on parle de synchronicité et de route du temps, donc il y a écrit deux livres, la route du temps, la route de priorité. Et puis là, la physique comme ça, je trouve toujours que c'est courageux pour un physicien d'essayer de se lancer dans la demande de la science, dans la vie, dans la vie, pour que je laisse un peu bien le sujet.
Bonsoir.
Merci,
aussi nombreux. Plus je parle de choses qui répondent à la question, plus il y a de monde. Donc, alors voilà. Donc, nous sommes dans le stade des possibles et je vais souvent parler du champ des futurs possibles. Donc, je vous présente tout d'abord cette. Pour comprendre ce que signifie le hasard, il est important de partir de représentations géométriques de l'espace-temps qui soit familière à tout le monde. Et j'ai pris donc la métaphore de l'arbre que j'ai repris dans mon livre La route du temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, alors on va oublier la complexité du passé, le fait que l'arbre du temps puisse prendre ses racines dans le passé, on va oublier cette question du passé pour se concentrer sur des choses qui sont déjà largement assez compliquées. Et donc, on va décomposer le futur pour chacun d'entre nous, ou même pour la planète, en tout un ensemble de branches. Tout le monde peut comprendre qu'à un certain moment de notre vie, on a des choix à faire, et que ce choix crée deux branches, et ainsi de suite. Donc notre futur peut être considéré comme on peut le représenter sous la forme d'un arbre. Avec la question essentielle étant, qu'est-ce qui fait qu'on emprunte une bifurcation plutôt que l'autre? Donc qu'est-ce qui fait que demain, quelqu'un va avoir un accident de la route, ou pas? Qu'est-ce qui fait que, y compris dans le cas des heureux événements, donc qu'est-ce qui fait qu'on ne bifurque pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec notre conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui est purement du hasard? Ou est-ce que tout est déterminé d'avance? Alors, diapo suivant. Voilà. Alors, donc, en tant que physicien, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et je considère qu'on peut décomposer le problème en quatre. Et dire qu'en science, il existe quatre types de hasard. Le premier type de hasard, qui n'en est pas, mais qui n'est pas celui qui nous intéresse, c'est le hasard qui est dû à notre ignorance des causes. C'est le fait qu'en fait tout est écrit, mais on ne sait pas ce qui va déterminer, on ignore ce qui nous détermine, et par conséquent, cette ignorance fait que lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous paraît étrange, on dit, ou qui choque un peu, les gens ne comprennent pas, on dit c'est le hasard, et en fait on ne sait pas de quoi on parle, parce que c'est pas le hasard, c'est simplement parce qu'on ne connaît pas les causes. Donc il y a quelque chose d'important à dire à ce moment-là, c'est que lorsque quelqu'un rencontre un phénomène très improbable et considère que ce hasard très improbable possède un certain sens, il faut bien comprendre que pour une personne qui vit ça, il y a plein d'autres personnes qui vivent des circonstances hasardeuses, mais qui ne sont pas du tout improbables et qui n'en parlent donc jamais. Et donc, en fait, on peut très bien attribuer le hasard à quelque chose de simplement très subjectif, c'est-à-dire que le hasard improbable peut simplement venir du fait que les personnes qui parlent de ce qu'elles ont vécu d'improbable sont forcément, elles sont les seules à faire, tandis que les personnes qui parlent de choses qu'elles n'ont pas intérêt à relater parce que ce n'est pas particulièrement improbable, n'en parlent pas. Pourtant, ce sont des événements qui peuvent être comparables. Et donc, voilà la raison qui est invoquée généralement par les scientifiques pour dire que le hasard improbable, celui qui possède un sens, n'existe pas. C'est une raison importante à ne pas oublier, à connaître. En réalité, ça ne tient pas la route dans tous les cas, puisque si quelqu'un dit quelque chose de très improbable et on parle et que ça continue, c'est-à-dire qu'il y a une cascade d'improbabilité qui continue, à ce moment-là, on a affaire à un hasard et à un ensemble de hasards qui ont du sens. Et c'est important quand même de savoir qu'on peut se leurrer sur la question du hasard. Donc, je vais rester longtemps là-dessus parce que c'est vraiment important cette première diapo. Je vais rester longtemps, il y en a encore beaucoup, mais ça c'est vraiment le fondement de toute la suite. Alors, il existe un deuxième type de hasard en physique que j'ai appelé le hasard anthropique et qui vient du fait que nous sommes tous issus, d'après les physiciens, d'un Big Bang. Et que en physique, on a un énorme problème, c'est que en fait, ce Big Bang nous amène, via le processus de l'inflation, à une myriade d'univers possibles. C'est-à-dire que les physiciens se sont rendus compte que le déterminisme dont je vous parle, celui qui. Le déterminisme, ah oui, j'ai obligé de dire que ce déterminisme, c'est ce qui fait que, donc selon l'un des credos scientifiques, tout est déterminé d'avance et notre futur existe déjà. Là, si j'ai fait une décomposition en quatre parties, c'est parce que, d'une part, on peut décomposer la réalité concernant le futur en deux théories. La première théorie qui consiste à dire « le futur est déjà réalisé ». La deuxième théorie qui consiste à dire « le futur n'est pas encore réalisé et se réalise dans le présent ». D'accord ? Le fait qu'on pense que le futur se réalise dans le présent, aujourd'hui, c'est considéré comme une théorie qui ne tient plus la route en physique pour un tas de raisons. Et il y a un autre credo en science qui consiste à dire, d'un côté, on a le déterminisme et le matérialisme qui fait que tout est déterminé par des causes, et d'autre côté, on a ce qu'on appelle l'indéterminisme quantique ou l'indéterminisme macroscopique qui fait qu'on a affaire à une multitude d'univers possibles. Bon, les matérialistes refusent l'idée de considérer qu'il existe une multitude de variantes possibles et préfèrent positionner ces variantes chacune dans des univers séparés. Et donc, j'en reviens à cette théorie qui fait naître le hasard anthropique. Le hasard anthropique, c'est simplement le hasard qui fait qu'on existe dans un univers plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que si vous avez une vie bien déterminé, vous avez une vie bien déterminée d'avance, exactement comme la précédente, mais il est possible que dans un univers qui se trouve à une distance absolument plus qu'astronomique, si au-delà de l'horizon cosmologique, existe une personne qui a exactement vécu la même vie que vous, et qui, à un moment donné, fait un choix différent et finalement a une nouvelle vie. Mais vous ne pouvez pas être cette même personne qui commute entre deux univers, parce qu'il peut y avoir une distance absolument incommensurable entre les deux. Bon, voilà, je suis en train de vous décrire la position du déterminisme, qui est la position classique, la plus celle qui est considérée comme étant la plus scientifique et qui est la plus valable aujourd'hui, qui est la position le hasard est dû à notre ignorance des causes. Et je vous décris la position concurrente aujourd'hui de la physique qui s'appelle la théorie des univers parallèles, où on résout le problème, où on continue de priver l'homme de libre arbitre en disant que nous sommes tous enfermés dans des univers différents. Bien entendu, c'est pas ce que je pense. Je vous expliquerai après pourquoi réellement c'est pas possible. Mais il faut par contre faire intervenir maintenant une troisième théorie, celle du vrai hasard, qui est le hasard qu'on appelle Dieu joue au dé. Vous avez entendu peut-être parler du fait que Einstein refusait de croire au fait que Dieu joue au dé. Il se trouve que depuis pendant presque un siècle, la physique a montré que Dieu jouait au dé, c'est-à-dire que la nature faisait des choix, que les physiciens qui refusent ça ont voulu absolument l'interdire en créant des univers séparés, parce que il n'est pas de la nature des physiciens de dire que tout n'est pas déterminé. Et donc, il existe quand même une catégorie de physiciens qui consiste que dans notre réalité, peuvent se faire des choix, mais ils veulent absolument l'attribuer au hasard. Et là, on a affaire à un hasard fondamental. Et donc, c'est des physiciens qui croient en Dieu, qui jouent au dé. Depuis quelques années, cette idée que Dieu pourrait aider et que donc le hasard quantique serait véritablement un hasard fondamental est battu en brèche, et il apparaît maintenant la position qui est celle que je propose et d'autres physiciens que moi la soutiennent, qui est donc le hasard qui n'existe pas. C'est-à-dire c'est le hasard dont on dit qu'il n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre futur est déjà réalisé. Donc effectivement, c'est un hasard qui n'existe pas, puisque c'est comme le déterminisme. Mais quelque chose fait que notre conscience peut interagir avec ce futur-là. Et dans ce cas, notre futur change. Et comme le présent est obligé de s'adapter à notre futur, ça crée des hasards extraordinaires qui sont imputables donc à ce type de théorie, c'est-à-dire que le futur est modifiable. Donc ce qui le modifie a pour effet de créer des hasards qui n'existent pas, puisque ce n'est pas aléatoire, ça vient du fait que ça vient de notre futur, mais il reste à déterminer qu'est-ce qui, dans notre futur, détermine ce hasard. Voilà. Donc, diapositive. Voilà, c'est très clair. Oui, il y a une difficulté des scientifiques à aller vers cette théorie qui consiste à dire le futur est déjà réalisé et on peut le modifier à cause de quatre problèmes en science. Hein. Ces quatre problèmes sont d'une part la croyance déterminisme qui a prévalu jusque dans les années 80, la croyance au matérialisme qui a prévalu jusque dans les années 90. Et voilà, et à chaque fois, vous rajoutez une dizaine. Et en fait, aujourd'hui, ces quatre croyances, déterminisme, matérialisme, hasard et causalité stricte, tombent. Hein. C'est pourtant des croyances qui nous amènent à penser que nous sommes des machines, que la conscience est un produit du cerveau, que la nature fait tous les essais. Donc là, on a affaire au vrai hasard, au hasard des mutations, par exemple, qui consiste à croire au déterminisme, et que les effets suivent les causes. Aujourd'hui, tout est battu en brèche, malheureusement au passage, ça aboutit à des dérives qui sont le transhumanisme, déshumanisation, l'aliénation issue du matérialisme, le darwinisme qui conduit à l'eugénisme, voire même au nazisme, et tous les systèmes de contrôle et tous les interdits. C'est-à-dire que les problèmes actuels de notre société viennent du fait que la physique n'a pas encore rendu compte du fait que toutes ces croyances étaient fausses. Si on commence à rendre compte du fait que toutes ces croyances sont fausses, ce qui nous amène à comprendre le quatrième type de hasard, où il est important que je vous présente les autres types, parce que je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ne donne pas les alternatives à cette pensée. À ce moment-là, en niant le déterminisme, on aboutit à une idée de l'humain qui est reliée à une transcendance. En niant le matérialisme, on aboutit à quelque chose que je vais développer, et qui est qu'à l'extérieur de l'espace-temps, il existe quelque chose de non matériel et qui est une énergie et qu'on peut légitimement considérer comme une énergie d'amour. On aboutit à l'idée qu'il est faux que l'évolution des espèces soit due aux mutations et à la sélection naturelle, et considérer que c'est tout à fait autre. C'est lié à une intention collective, à l'intention collective d'une espèce. Et aujourd'hui, ce qu'on découvre en physique, c'est ce que j'appelle la coordination non locale, qui fait que ce n'est pas possible que ce soit le hasard qui crée que ce soit une mutation de réduction des dés quantiques, il n'est pas possible que ce soit un dieu qui joue au dés, c'est-à-dire un tirage au sort, le classe, à cause du fait que ce hasard est quelque chose qui est non local, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est organisé. C'est un petit peu comme si l'univers était instrumentalisé de l'extérieur, marionnettisé de l'extérieur. Et quatrièmement, si on considère que la causalité n'est plus stricte, et aujourd'hui on découvre en physique que la causalité est indépendante du temps, absolument, en fait, c'est tout à fait mainstream comme pensée, mais on s'aperçoit qu'il faut vivre à la fois avec l'idée que nous sommes poussés par notre passé, tirés par notre futur, et c'est cette idée fondamentale-là qui aboutit à la spiritualité. En tout cas, c'est moi, c'est cette idée qui m'a fait aboutir personnellement à la spiritualité. Dépôt suivant. Et une autre raison, alors là, les raisons pour lesquelles les physiciens ont du mal à aller vers cette quatrième alternative du hasard qui n'existe pas, donc je vous les ai données, c'est parce qu'il faut relier quatre dogmes fondamentaux de la physique qui conduisent en plus, si on les relie, à abandonner les équations. Alors, il ne s'agit pas d'abandonner les équations, mais simplement à considérer que la physique n'est pas complète et que pour compléter la physique, il faudrait utiliser autre chose que les équations. La deuxième raison pour laquelle les physiciens ont du mal à y aller, c'est que dès qu'on considère donc ce futur déjà réalisé qui peut se mouvoir, on trouve des explications à tous ces phénomènes, non seulement l'évolution des espèces, les guérisons spontanées, l'effet de placebo, les expériences de mort imminente, le chamanisme, la médiumnité, les perceptions extrasensorielles, la parapsychologie, les ovnis, les synchronicités, l'astrologie, la numérologie, etc. Tout ça reçoit des explications clairement ou alors des cellules d'explications. Je n'attends pas qu'on peut expliquer tout. Mais si vous voulez, vous imaginez bien que être scientifique aujourd'hui, ça a trop, c'est considéré encore malheureusement comme considéré que tout ça, ce sont des bêtises. Donc à partir du moment où ça mène à comprendre ce genre de choses, il y a un refus de la communauté scientifique, bien que personne ne va oser le faire. D'accord ? Moi, quand je parle avec un physicien qui aime bien ce que je fais, seul à seul, il n'y a pas de problème, il trouve très intéressant ce que je dis, mais si je parle à un physicien qui y en a un autre qui arrive, bon, il n'est pas au courant, il va relier tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on a le droit de penser ces choses-là en cachette, mais on n'a pas le droit de les penser en public. D'accord ? Voilà. Donc, diapositive suivante. Alors, pour comprendre maintenant ce qui se passe lorsque comment le futur peut être modifié, alors qu'il existe déjà, parce que telle est la question fondamentale du hasard qui n'existe pas, il faut absolument renverser la perspective sur la conception de la réalité. C'est-à-dire que Jacques Collin a bien raison de le préciser tout à l'heure, la matière n'existe pas, absolument pas. Mais pas seulement la matière. Le temps et l'espace n'existent pas non plus. Mais le plus important, c'est pas que la matière n'existe pas, c'est que l'espace lui-même n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est plus facile de comprendre que la matière n'existe pas. En fait, pourquoi l'espace n'existe pas ? Parce que l'espace vibre à son échelle intime, à ce qu'on appelle l'échelle de Planck, distance moins 35 mètres, mais en fait il vibre bien au-delà, il vibre dans moins 16 ou moins 35 mètres, enfin, bon, ça c'est secondaire. Et il est pixelisé, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine échelle de distance, il n'y a plus de distance. Et l'espace au-dessus duquel on va essayer de représenter cet espace pour le décrire n'existe pas non plus. Donc ça veut bien dire que l'espace n'existe pas, puisque il ne correspond pas à la conception de ce que l'espace. Ça veut dire que l'espace est une création de la conscience. C'est la raison, mais il y a plein d'autres raisons. L'espace est déformable et il est troué. C'est quoi un espace? Lorsque on parle de trou noir, par exemple, il faut bien comprendre que on n'est pas seulement dans un trou qui avale toute la matière, etc. On est dans un trou qui avale l'espace lui-même. Ça ne veut rien dire. D'accord? L'espace est déformable lorsque la lumière est déviée par le soleil. C'est comme ça qu'on a confirmé la théorie de la relativité d'Einstein. On a tendance à dire, bon, ben oui, mais on va représenter cet espace Donc les mathématiciens représentent cette déviation, et en représentant cette déviation, ils donnent l'impression qu'il existe un espace dans lequel ce n'est pas dévié. Mais en fait, cet espace-là n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment très important. C'est que la physique, aujourd'hui, nous montre clairement, mais alors d'une façon on ne peut plus claire, pour quatre raisons différentes et indépendantes, que l'espace n'existe pas. Alors vous allez dire, mais alors la matière, si c'était vrai, il n'y aurait pas de matière. Et bien, justement, il n'y a pas de matière. C'est-à-dire que plus on fouille la matière, plus on décompose la matière, plus on zoome sur la matière, et plus on s'aperçoit que la matière est faite de vide. Et quand on trouve que la matière est faite de 99,999% seulement de vide, c'est parce qu'on n'a pas assez zoomé. Et lorsqu'on continue de zoomer et qu'on arrive à l'échelle de Planck, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des vibrations, comme disait Jacques tout à l'heure. Donc la matière est faite simplement de vibrations. Et le vide, qu'on appelle le vide, est plein d'informations. En fait, notre réalité est faite d'informations, énergie, et la part dans l'univers de ce qu'on appelle matière, qui est de l'information, puisque ce n'est pas de la matière, ne représente qu'une portion infime, puisque le vide contient 10 puissance 120 fois plus d'informations et énergie que notre réalité, que la matière. D'accord ? 10 puissance 120, je ne sais pas si vous imaginez. C'était... Et ceci a été démontré à la fin des années 90 par ce qu'on appelle l'effet Casimir. Bon, mais ça avait été prévu de longue date par les équations. Et ça vient de la déterministe quantique, je ne sais pas si on le dit. Et que le temps n'existe pas plus, puisque notre futur est déjà réalisé. Et les physiciens aujourd'hui ne savent pas expliquer le présent. Ils ne comprennent pas le sens du présent. Le présent n'appartient pas à la physique. Cette sensation que le temps s'écoule, la physique ne sait absolument pas décrire de cette manière. Le présent, c'est quelque chose qui concerne la conscience. D'accord ? Tout se passe comme si, mais c'est pas exactement ça, mais c'est la meilleure façon de se représenter. Nous vivions dans une sorte de simulation, mais c'est pas ça. Hein. Genre, c'est pas Matrix, ça ressemble à Matrix, mais l'au-delà décrit par Matrix, c'est pas ça. Mais, c'est-à-dire, la réalité étant une création de la conscience, le monde étant et tout étant fait de conscience, la matière étant simplement une cristallisation de la conscience, c'est ainsi qu'il faut se représenter les choses pour coller le mieux à la réalité. Et à ce moment-là, le temps est simplement le fait que nous voyageons à l'intérieur d'un véhicule qui nous donne à voir une partie infime de la réalité pendant notre voyage. Et simplement, notre libre-arbitre théorique provient du fait que dans ce voyage que nous faisons dans le vide, plein d'informations, nous avons la possibilité d'aller à droite, à gauche, et de bifurquer dans cet arbre de vie. Alors, diapo suivante. Alors, voilà. Donc, pour appuyer le trait sur le fait que la matière n'existe pas, tout est conscience cristallisée, et pour appuyer le fait que le vide est en fait plein d'informations, et donc cette position qu'on va considérer un petit peu comme spiritualiste, en fait, elle n'est pas fondamentalement spiritualiste. Personnellement, moi, je considère l'âme comme une interface entre notre monde de matière et le vide, d'accord ? Entre la réalité qui va héberger l'esprit, comme vous le verrez, mais cette interface, elle peut être, elle est déjà identifiée par la physique sous la forme de quelque chose que moi, je n'hésite pas à appeler âme, mais que les physiciens vont pas appeler âme pour des questions de blocage que vous imaginez bien. Pourquoi, en réalité, la physique pourrait définir ce qui correspond à l'âme, pour trois raisons. D'abord, parce que l'âme, on peut la définir comme étant la partie d'un système vivant qui le gère de façon non mécanique. Ensuite, on peut la définir comme étant une extension immatérielle de notre corps. Et ensuite, on peut la définir comme ayant la propriété de survie après la mort. Et bien la physique, si on pose ces trois questions, est-ce bien vrai que ça, elle répond oui à ces trois questions. C'est-à-dire que la physique nous apprend, via l'indéterminisme non seulement quantique, mais l'indéterminisme que j'appelle macroscopique, sur lequel j'ai personnellement travaillé, et si je fais des conférences, c'est à destination aussi des physiciens pour bien l'appuyer là-dessus, parce qu'il y a un problème dans notre système académique, c'est que on va plus, en physique en tout cas, on va plus assez au fond des choses, et la physique, elle a décroché le train de la philosophie, elle est devenue trop technique, et les physiciens ont oublié de mettre l'accent sur le fait que le déterminisme est impossible aussi en mécanique classique. Bon. Je ne vous parle pas de Wittgenstein sur le IA. La mécanique quantique, oui, mais c'est trop compliqué. La mécanique quantique nous apprend déjà. En fait, voilà, si je vais quand même vous dire un mot sur le IA, non mais je vais vous excuser parce que, en fait, je vais quand même vous dire un mot. L'analyse approfondie de la dynamique du IA, et j'ai fait de l'éducation là-dessus, m'a appris qu'il est faux de penser. Que dans un billard, mais ça peut être les molécules d'air, etc., il est faux de penser que la mécanique détermine parfaitement tout ce qui va arriver. Ça, c'est vraiment une croyance parfaitement imbibée chez les amis académiciens, même des esprits très brillants. Et cette croyance, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En réalité, lorsqu'on fait les calculs et lorsqu'on regarde bien ce qui se passe, on s'aperçoit, pour le dire rapidement, qu'une boule de billard, elle pourrait parfaitement disposer d'un libre arbitre. Simplement, le libre arbitre d'une boule de billard était juste impossible pendant les premiers chocs, on va dire les quelques dizaines de premiers chocs. Ensuite, il serait tout à fait possible d'imposer un futur à une boule de billard et d'adapter le présent et sa trajectoire pour qu'elle arrive à ce futur-là. C'est quelque chose que j'ai fait, des expériences que j'ai fait, des expériences qu'on appelle des expériences numériques. C'est très compliqué, ça me demande un temps de calcul énorme, mais il est tout à fait possible, à partir du moment où on attend suffisamment de choc, de faire en sorte qu'une boule arrive à une destination définie d'avance. D'accord ? Je résume ça en disant que l'influence du futur sur le présent est possible, ou, ce qui revient au même, la modification du futur déjà réalisé est possible, à condition que le futur soit de plus faible densité que le présent. Quand je parle de faible densité, là je vais un peu trop vite, parce que tu m'as obligé à en parler d'avance. Voilà. Je vais en parler après, donc diapositive suivante. Donc, j'ai oublié de dire quelque chose là. Oui, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. Ça vient de rester là. Donc, pourquoi l'extension immatérielle? Puisque, en fait, justement, les informations qui déterminent la trajectoire d'une boule de billard, qui a perdu toute son information au bout de quelques chocs, font partie du vide. Ce sont des informations qui sont liées à la structure intime de l'espace. D'accord? Donc, ça veut dire que ces informations qui nous déterminent de façon non exclusivement mécanique sont bel et bien immatérielles. Ensuite, ça ne survient pas à la mort, oui, parce qu'on sait aujourd'hui que les informations immatérielles, qui sont de nature quantique, sont indépendantes de l'espace et du temps. J'ai un grand physicien, Antoine Soares, qui n'arrête pas d'appuyer là-dessus, qui n'arrête pas de dire dans ses conférences, il fait des conférences d'ailleurs sur la conscience quantique, et son expérience, elle est imparable. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, on s'aperçoit que le temps n'existe pas réellement, c'est-à-dire qu'en fait, tout est simultané lorsqu'on observe une particule. La trajectoire de cette particule se met à exister seulement au moment où on l'observe, y compris dans son passé, c'est-à-dire que le passé de cette particule qui n'existait pas auparavant, puisque c'était un nuage probabiliste, se met à exister après son observation, ainsi que son futur, c'est-à-dire qu'on a créé instantanément à la fois le passé et le futur de la particule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a que des lignes temporelles. Et l'espace en mécanique quantique n'existe pas non plus, pas à cause de ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire le fait que deux particules jumelles puissent être intriquées, indépendantes de la distance, c'est-à-dire corrélées, c'est-à-dire ce qu'on va faire sur l'une va agir sur l'autre, alors qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. Et durant ces dernières années, il s'est passé quelque chose de très important et qui a corroboré ce que j'ai écrit dans la roue du temps, et j'étais donc très 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 content, parce que ça a empêché les physiciens de me taper dessus. C'est qu'on a découvert que, expérimentalement, ce qu'on avait anticipé, ce qu'on était servi d'ailleurs pour oser dire ce que j'ai dit dans la roue du temps, on s'est aperçu que cette non-localité spatiale, donc le fait que deux particules jumelles puissent être intriquées, donc corrélées, quelle que soit la distance, est valable dans le temps. C'est-à-dire que ces deux particules peuvent être séparées par le temps, c'est-à-dire qu'il existerait un tas de phénomènes pour lesquels, quand quelque chose change dans le présent, quelque chose change simultanément dans le futur, ainsi que dans le passé, sans aucun lien de causalité pour présider à ces changements. Ce qui fait dire à des physiciens très respectés comme Étienne Klein ou Alain Kohn que, pour Étienne Klein, le futur pourrait changer maintenant, indépendamment de la causalité, et pour Alain Kohn, le fait que le passé pourrait changer maintenant, indépendamment de la causalité. D'accord ? Donc, cette chose qui détermine le vivant, qui anime le vivant, parce que la mécanique est impuissante à animer le vivant, elle est bien obligée de survivre après la mort, puisqu'il s'agit d'informations qui sont indépendantes de l'espace et du temps. Voilà, diapo suivant. Oh, ben, attends. Elle vient à la cassette.
Il y a du temps, donc.
Il y a du temps, donc. Donc, oui, rappelez-vous de ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à dire à des scientifiques, hein, parce qu'il va falloir le temps de mourir. L'âme existe officiellement, scientifiquement, à partir du moment où on la définit comme étant quelque chose de non mécanique, immatériel et qui survit après la mort. La science nous démontre aujourd'hui que ça existe. Alors, maintenant, avant d'introduire, est-ce que je ne suis pas trop long là? Donc, avant d'introduire donc, le mécanisme par lequel l'inconscient pourrait agir sur le futur, il est important pour avoir une compréhension rationnelle d'utiliser ce genre de modèle qui consiste à dire que tout se passe comme si, dans notre vie, et pour ce qui concerne notre futur déjà réalisé, nous évoluons à l'intérieur d'un tunnel invisible qui correspond donc aux marges tunnel, ça correspond au passage du temps, et ce tunnel peut lui-même évoluer sur la mer quantique. C'est-à-dire, je représente ici en trois dimensions, et même en deux, quelque chose qui a lieu en dix dimensions, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cet univers d'informations qu'on surajoute à notre réalité qui en a quatre, en fait, elle a six dimensions supplémentaires. Et donc il n'est pas étonnant que le vide quantique soit aussi plein, puisque le vide aurait 10 dimensions, en tout cas 6 de plus que notre réalité, alors que notre réalité n'en a que 4. Donc si on représente notre réalité avec seulement 2 dimensions, le fait qu'on avance sur un tunnel, le fait que l'électricité qu'on rajoute 2 autres dimensions, que là, c'est un mouvement à quatre dimensions, pour représenter la mer quantique. Alors, donc, deux dimensions à la place de 6 et 2 à la place de 4. D'accord, on réduit énormément. Hein. Donc, ça fait que tout se passe comme si notre futur changeant consistait à le temps qui passe, on revenait au fait qu'on se déplace dans un tunnel invisible qui lui-même peut bouger. Alors, il peut bouger, là, évidemment, comme il s'agit de, il peut bouger de manière fluide, comme on a l'impression que c'est, mais en fait, il peut bouger également de manière saccadée, sauf que c'est difficile de trouver une représentation qui mette en valeur tous les cas de figure. Alors, la chose intéressante à comprendre, là, c'est que les vagues de cette mer qui correspondent aux fluctuations du vide, d'accord, c'est quelque chose qui donc agit sur notre futur, donc il est impossible de ne pas relier à nos intentions. C'est-à-dire que nos intentions soient conditionnées ou pas, que nous soyons libres ou pas, que nous ayons un vrai libre arbitre ou pas, il est indéniable que ces vagues de la mer Atlantique soient corrélées à nos intentions. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes peut-être pas libres, mais comme notre futur change, c'est peut-être notre futur qui nous ramène nos intentions, puisque nous avons l'intention de faire, nous avons l'impression de faire ce que nous avons l'intention de faire. D'accord ? Donc il y a bel et bien une corrélation entre ce qui provoque les changements dans notre futur, que nous soyons libres ou pas, et donc les vagues de la mer quantique. Et c'est quoi nos intentions ? C'est nos états de conscience. En plus, ce n'est pas seulement nos intentions, quelqu'un qui n'est pas libre, mais c'est un état de conscience bien déterminé, il ne s'en rend même pas compte, mais tout le monde voit bien que tel type de personnage, il va lui arriver telle chose. D'accord ? Donc, c'est d'une manière plus générale, les vagues de la mer sensible sont reliées à notre conscience. Alors, il y a une suivante. Ouais, bon. Je passe à un exemple. Donc, alors là, ça c'est une... J'ai un ami graphique qui s'est proposé de me faire... Mais là, c'est pas à cause du graphique, donc je sais plus exactement de la succession de mes... C'est pas grave. Justement, ça tombe bien, on a un exemple là. Donc là, j'ai demandé à un ami graphiste qui m'a proposé bénévolement son concours d'essayer de me représenter un futur qui change, mais en prenant le cadre le plus standard possible. C'est-à-dire que, avant de commencer à aborder vraiment les synchronicités et tout ça, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui arrive à tout le monde. D'accord ? Donc là, je prends le cas de figure où vous travaillez pendant quelques mois, et puis ensuite vous partez en vacances pendant un mois ou deux, puis ensuite vous travaillez à nouveau. Donc vous travaillez, vous avez vos habitudes. Donc vous avez un passé qui est très serré. On appelle ça dense en information, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire est à peu près prévu d'avance et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pendant les périodes où vous êtes en train de travailler, vous allez vous lever tous les matins, etc., etc. Et il ne peut pas vous arriver grand-chose d'autre que ça. Hein. En tout cas, la probabilité la plus dense, la probabilité que, voilà, que vous ne sortez pas de votre travail est très dense. Et puis vous entrez dans une zone de vacances où là, l'univers n'est pas capable. L'univers n'est pas capable de déterminer d'avance ce qui vous arrive. Et donc l'univers va créer un arbre. Il va créer tout un paquet de lignes temporelles, d'épaisseurs qui vont correspondre à la probabilité que vous utilisez ça dans la réalité. Et ensuite, votre futur va à nouveau être dense, ceci étant déterminé d'avance. D'accord ? C'est-à-dire que vous êtes tout en bas, là, dans le passé. Vos vacances sont déterminées d'avance, mais de façon non dense, en vous laissant tout un tas de possibilités. Et par contre, le fait que vous allez retourner à votre travail est déterminé d'avance de façon très dense. Voilà, cet exemple, il est intéressant, parce qu'il concerne absolument tout le monde. Mais même dans ce cas-là, vous pouvez changer votre futur. C'est-à-dire que suivant ce que vous allez vivre pendant vos vacances, et là, en l'occurrence, Gabriel, donc mon graphiste, a essayé de représenter trois opportunités de rencontre qui peuvent changer l'état d'esprit. D'accord ? Ceci n'est pas déterminé. L'espace-temps, l'univers n'est pas capable de déterminer d'avance ce que vous allez faire au moment des bifurcations potentielles, c'est-à-dire durant ces trois rencontres entre différents futurs possibles correspondant à votre passé, le patient n'est pas capable de déterminer. C'est ce qu'on appelle l'indéterminisme. On va dire la situation pendant vos vacances, elle est plus ou moins quantique. D'accord ? Et donc là, on a représenté le fait que durant la deuxième bifurcation, il se passe quelque chose. Tiens, il y a une prise de conscience, grâce aussi aux opportunités. Et la personne se retrouve d'un coup sur de nouveaux rails. Elle est passée dans un autre univers parallèle, d'accord ? C'est-à-dire, elle a fait le pas qui a fait qu'elle a rencontré quelqu'un et que sa vie va changer, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'elle va retourner au travail, tout va se passer comme avant, mais elle sera d'une humeur différente et puis ça va changer totalement son futur ensuite. Donc elle sera passée d'un futur orange à un futur vert. Et ça aura changé par la même occasion son passé, même si c'est pas beaucoup, mais il suffit d'un gène, d'accord ? Il suffit d'un gène pour créer une modification du passé qui fait que notre futur peut changer considérablement. Diapositive suivante. Et donc, voilà, cette notion de densité, elle est très importante parce qu'en physique, on découvre aujourd'hui, et les physiciens le créent, mais bon sang, mais il faudrait peut-être un jour informer le public qu'on a compris que la réalité n'était pas ce qu'on perçoit, mais que ce qu'on perçoit, c'est une superposition, c'est déjà une superposition de tous les possibles. Nous ne vivons pas dans une réalité qui est intégralement définie déjà à notre niveau, à cause de ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui fait qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. Il existe une limite en termes de quantité d'information en dessous de laquelle l'univers ne peut pas aller. C'est-à-dire que il existerait, si on voulait aller encore explorer dans le détail, une multitude de possibilités. C'est-à-dire que la réalité qu'on perçoit, même quand une fois qu'elle est observée, elle reste une réalité sensiblement peu dense. Elle est très dense, mais elle est sensiblement peu dense. Il manque de l'information. Ça, c'est un premier niveau de densité. C'est le niveau de densité de la matière. Et il existe un deuxième niveau de densité, qui est celui qu'on a découvert en mécanique quantique, c'est la densité quantique, c'est-à-dire le fait que la réalité peut être en fait d'états réellement superposés avant qu'on les observe. Et cette densité quantique, ça correspond à ce qu'on appelle la fonction d'onde, la superposition d'états. Enfin, je ne vais pas parler de mécanique quantique, sinon on ne comprend pas. Mais disons que ça correspond à un autre état de la réalité, c'est-à-dire de la matière, de la conscience, par nous-mêmes, qui correspond à un état d'extrêmement faible densité. Donc, il y a deux densités dans la nature. Et ça, c'est clair et net. Il y a personne qui va me dire au moins deux densités d'informations différentes dans la nature. Et on a vu que la première densité, ça correspond à notre réalité physique, matérielle, et que la deuxième densité, ça correspond à une réalité de conscience, puisque c'est ce qu'on a relié à la mer quantique. C'est-à-dire les fluctuations du vide, le fait que le quantique non manifesté, la réalité quantique non manifestée, c'est une réalité peu dense qui correspond à la conscience. D'accord ? Et ce que je propose ici, c'est que notre réalité ne soit pas limitée à deux densités, mais qu'il y en ait d'autres niveaux de densité. Pour une simple raison, c'est que lorsqu'on rajoute la densité de la conscience, on rajoute trois dimensions. Or, on en dispose de six. Donc ça, c'est déjà une première raison. Donc on peut déjà rajouter, pour des raisons mathématiques, un troisième niveau de densité, que j'appelle la densité du soi. Et pour des raisons non mathématiques, mais tout simplement parce que pour arriver à héberger ce qu'on appelle le multivers d'Everest, dans notre réalité qui ne contient, dans la réalité globale, qui contient seulement 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le champ des possibles d'un seul individu, si on lui permet de faire vraiment n'importe quoi, il peut largement dépasser ça. Et donc, il est intéressant, mathématiquement parlant, d'un point de vue cybernétique, d'organiser la réalité en différents niveaux de densité, sachant que chaque niveau de densité va définir une ligne temporelle qui va servir de guide à la densité supérieure. C'est-à-dire que Et c'est là qu'on résout le problème du libre-arbitre. Nous avons un libre-arbitre et en même temps, nous n'en avons pas. C'est-à-dire que si on se fie à la partie de nous-mêmes qui est dans la réalité dense, c'est ce que j'appelle notre moi, nous avons un libre-arbitre extrêmement réduit. Par contre, si on considère que nous ne sommes pas ce moi, mais que nous sommes la partie de nous-mêmes qui se trouve dans la réalité beaucoup moins dense que qui est celle du soi, à ce moment-là, nous avons un libre-arbitre si on considère que nous sommes soi. Nous n'en avons plus si on considère que nous sommes moi. C'est pour ça qu'il y a certains grands sages qui disent que nous n'avons pas, comme Krishnamurti, qui a déclaré que nous n'avons pas de libre-arbitre. Oui, parce qu'il se place du point de vue du moi, parce qu'il se place du point de vue de la majorité des gens, en fait, du point de vue auquel tout le monde se place. En réalité, notre identité, elle se définit à de multiples niveaux, c'est-à-dire le niveau physique, que j'appelle celui de l'anima, impliquant un peu à une certaine notion, le niveau de la conscience consciente, parce que la conscience, elle est faite pas seulement de conscience, mais aussi de l'inconscience. Donc, le niveau de notre conscience consciente, c'est ce que j'appelle le niveau du moi, c'est le niveau de l'ego, de la personnalité, et le niveau du soi. Donc, je vous ai donné au moins deux raisons de croire physiquement, pour des raisons mathématiques en plus, à l'existence du soi. Et on peut enfin continuer ainsi, indéfiniment, et parler d'extérieur de notre réalité, c'est-à-dire que là, on ne peut pas. Si on parle de notre réalité, c'est-à-dire de tout ce qui arrive, de toute l'éternité dans notre réalité, on ne dispose que de 10 dimensions. Et donc là, on va considérer que notre soi contribue à créer notre réalité. C'est la partie de nous-mêmes, de notre âme. Donc je définis notre âme comme étant l'ensemble du moi et du soi. L'âme a 6 dimensions. Donc, notre soi est bien qu'une partie de nous-mêmes qui travaille dans cette réalité-là, dans cet univers-là. Par contre, au-dessus, ce que j'appelle l'esprit, en continuant de diminuer la densité, ne travaille plus dans notre réalité. Il peut travailler simultanément dans d'autres réalités. Voilà. J'ai hésité à rentrer dans certains détails. Bien possiblement. Donc, donc ça c'est le modèle que j'ai présenté en faisant une synthèse, parce que bon, on aime bien c'est le modèle de comment ça ressemble, mais alors, non, mais si on rajoute effectivement tout en bas ce qu'on appelle la réduction des temps mécaniques, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le passage du temps, on aboutit à 10, mais c'est pas fait exprès, hein. C'est-à-dire que, justement, je préfère qu'il n'y ait pas de conclusion. Moi, j'aboutis à ça pour des raisons rationnelles, d'accord. Ensuite, celui qui veut y voir là-dedans la cabale, c'est son truc, hein, je dis bien, mais je dois bien présenter les choses. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai représenté 12 pôles de la conscience, parce que la conscience, en fait, et ça, oui, j'ai une diapo pour présenter ça, parce que j'avais pas de temps, parce que la conscience, ça correspond à l'espace. La conscience, ça correspond à ce que j'appelle les vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace, bon, le mot quanto-gravitationnel, bien sûr, vous paraît un peu. Ce sont les vagues de la mer quantique. La mer quantique que je vous ai représentée tout à l'heure, c'est de l'information non manifestée dans la réalité. D'accord ? Donc je l'ai représenté à 2 dimensions au lieu de 6 sous la forme de vagues. Et ces vagues de la matrice, ce sont des vagues de l'espace. Hein ? Donc la conscience, c'est l'espace. Et si on veut décrire, par exemple, pour ce qui nous concerne chacun de nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps, cerveau, par rapport à ces vagues de l'espace, en fait, il faudrait nous projeter en 2 dimensions et considérer que, voilà, nous devons décrire, ou plutôt l'inverse, simplement, considérer que nous devons décrire la conscience à partir de ces informations dont nous disposons. Donc, ce sont des informations spatiales qui ont à la fois un contenu spatial que j'associe au mental, pour des différentes raisons que je vais analyser, et des informations vibratoires que j'associe à l'émotionnel. D'accord ? Pour des raisons là qui sont plus faciles à intuiter. D'accord ? On parle beaucoup de vibrations lorsqu'on parle d'émotion. Bon. Ça a une correspondance. Maintenant, sachez que ça a une correspondance. D'accord ? On peut considérer que ce qu'on appelle vibration, en ésotérisme, il y a des gens qui parlent de vibrations, des épisodes de vent, c'est n'importe quoi. Bon, ce sont des vibrations de l'espace. Ça a un sens. D'accord ? Et on peut identifier un troisième pôle qui est le pôle de la conscience elle-même, donc que j'appelle alternativement animal, moi, soi, esprit. Alors nous, on est au niveau du moi. Bon, donc on n'a pas conscience de notre animal ni de notre soi. Bon. La conscience, c'est très très logiquement les informations de plus forte amplitude. C'est-à-dire que dans une mer tranquille, d'accord, il va y avoir par exemple là, telle vague, et ça, ça va être la conscience. Mais toute l'information, même si elle est infiniment petite, qui entoure et qui compose la personne, c'est de l'information absolument fondamentale, même si elle n'est pas ressentie. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui va contenir le plus d'informations qui vont fabriquer le mental, puisque le mental est, est une machine qui fonctionne inconsciemment, et l'émotionnel, qui est elle-même une machine qui peut fonctionner inconsciemment, mais qui peut se mettre à créer des vagues de forte amplitude, et c'est là qu'on ressent le plus d'émotions. Donc, il y a des raisons mathématiques d'attribuer trois dimensions à la conscience, et comme il y a plusieurs niveaux de densité, ça nous amène à définir dans notre réalité 9 centres pour la conscience. Après, si on va encore au-dessus, on n'est plus dans notre réalité, parce que la physique décrit un espace-temps, et en dehors de cet espace-temps, on pourrait parler de réalité parallèle à ce moment-là. Donc l'esprit, si nous avons un esprit, pourrait gérer plusieurs réalités. D'accord ? Alors que notre soi peut gérer une seule réalité, mais ça n'empêche pas notre soi d'être relié à plusieurs moi dans notre réalité. Et ça correspondrait à des incarnations simultanées. D'accord ? Et ce qu'on appelle la réincarnation ne serait pas une véritable réincarnation, mais le fait que nous avons des moi dans le passé qui ne sont pas nous-mêmes, mais qui sont en même temps nous-mêmes, puisqu'elles sont reliées à notre véritable identité. C'est-à-dire que notre moi, nous ne sommes pas notre moi, nous sommes plutôt l'entité que nous allons, consciente que nous allons rejoindre après la mort. Et donc, il faut qu'on si on peut accepter la théorie de la réincarnation, disons, en se positionnant dans un système de pensée qui oublie l'existence de soi, mais dès qu'on se positionne dans un système de pensée qui organise la conscience comme un vaste cerveau, et donc en fait, moi, ce modèle-là, je le présente comme un modèle cybernétique, parce que je suis un spécialiste des réseaux de neurones, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que j'ai fait dans la vie, je fabrique des cerveaux électroniques, des cerveaux informatiques, et au passage, oui, enfin, c'est pas encore là, c'est le fait de faire de l'intelligence artificielle qui m'a fait découvrir que la mémoire ne pouvait pas être contenue dans le cerveau. C'est vachement important. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. C'est-à-dire que j'ai développé des réseaux de neurones pour fabriquer des robots qui sont capables d'apprendre à reconnaître tout un tas d'objets complexes, etc. Et je me suis rendu compte, lorsque j'essayais ensuite de récupérer la mémoire de ce que j'avais appris à mon robot à l'aide de l'information qu'il y avait dans le réseau, j'arrivais jamais à récupérer cette mémoire. Tout ce que j'arrivais, c'était à récupérer une information dégradée qui était que je pouvais visualiser sous une espèce de brouillard spectral. Bon, une information très dégradée qui rend impossible le fait de remonter à l'original, alors que l'original, quand on reconnaît, il est vachement... Et l'original, il est sur le disque dur, mais il n'est pas dans le cerveau. Et en plus, les propriétés de ces traces de la mémoire que je gardais, elles étaient disséminées dans tout le cerveau, mais c'est exactement ce qu'on observe en neurophysiologie, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas le siège de la mémoire, par contre on trouve des traces de chaque mémoire partout dans le cerveau, et quand on enlève un coup de cerveau, eh ben le gars, la personne continue de se souvenir. Je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà. Ça c'est quelque chose, donc beaucoup de choses dans mon expérience de chercheur et surtout d'ingénieur m'ont fait tilt et ont fait que j'ai adopté ce genre de position, mais pour moi ce sont des certitudes parce que je suis allé au charbon, d'accord ? C'est-à-dire que j'ai réalisé ces choses-là. Donc diapo suivante. Voilà, donc là c'était parce que je pense que c'est là qu'on commence à aborder donc la magie de. C'est là qu'on commence à aborder la magie donc, du hasard. C'est que il fallait que je vous présente le modèle physique quand même. Donc voilà le modèle que j'ai, on va dire, découvert expérimentalement, sans même avoir le modèle théorique, lorsque j'ai écrit mon premier livre La Roue du Temps, et que j'ai décidé de faire des expériences pour vérifier l'existence du phénomène de synchronicité. Donc je décris ça pour les lecteurs pour les personnes qui sont intéressées à découvrir comment je suis arrivé à avoir cette pensée. Voilà, intéressez-vous plutôt à mon premier livre où je décris toutes mes expériences, donc je ne vais pas vous répéter ici. Donc ce sont des expériences de dialogue avec l'ange. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère que nous ne sommes pas notre conscience, d'accord, nous ne sommes pas notre moi, on a le droit, et il existe des raisons fondamentales, d'essayer de se connecter à une partie de soi-même qui n'est pas matérielle. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais que font les gens qui essayent de faire ça? Tout simplement, ils parlent à leur ange, ils dialoguent avec l'ange, j'ai lu des bouquins sur les anges. Moi, je suis très laïque, hein, donc je ne vais pas dans les pratiques religieuses, la prière, tout ça. J'ai essayé d'aborder cette question des anges de la manière la plus détachée, la plus laïque, la plus rationnelle, en fait, en même possible. Et en lisant des bouquins, et notamment le livre Dialogue avec l'ange, qui est quand même un livre compliqué, hein, disons que si on est intuitif, on peut l'adorer, et ben j'ai eu un déclic qui a fait que je me suis lancé dans ces expériences-là. Et ça a marché. Et après, donc, ça a déclenché chez moi, parce que je suis très mental, énormément de réflexion, etc. Et j'ai fini par... ça a marché, mais en cascade, hein. En fait, je raconte ça dans le livre. Donc j'ai fini par essayer de me coucher sur le papier tous les états d'esprit qui sont nécessaires pour arriver à déclencher les synchronicités, c'est-à-dire à se créer un futur qui peut paraître tout à fait impossible mais qui correspond à ses rêves. Voilà. Alors pour ça, il est très important d'abord de trouver qui on est, de trouver son être intérieur. C'est-à-dire vraiment, ça peut arriver... La moitié du temps, ça arrive à travers de grosses épreuves, suite à de grosses épreuves. L'autre moitié du temps, ça arrive spontanément chez un tas de gens qui sont capables, qui vivent avec ça. Et beaucoup de grands chefs d'entreprise sont capables de se connecter naturellement et c'est comme ça qu'ils réussissent leur parcours. Moi, j'ai aussi un parcours de chef d'entreprise et je me suis demandé comment j'arrivais parfois à faire marcher des trucs. De manière imprévue, bon. Et petit à petit, je me suis aperçu que donc, l'état d'esprit est fondamental lorsqu'on essaye d'obtenir ce qu'on désire, mais c'est pas, le désir n'intervient pas là-dedans. Ce qui intervient là-dedans, c'est l'authenticité. Voilà. Et donc, je résume l'état d'esprit préalable qu'il faut avoir pour déclencher les synchronicités, c'est se déconditionner, donc se déconditionner le mental et l'émotionnel. Se déconditionner le mental, ça consiste à lâcher prise. Se déconditionner l'émotionnel, ça consiste à faire confiance. Se faire confiance. D'accord ? Et identifier son être intérieur. Donc là, c'est arriver à faire une connexion à ce que j'appelle le soi, donc la véritable, le véritable qui on est. Et pour ça, il faut demander bah, qui suis-je, où suis-je, où vais-je, dans quel étage. Il ne faut pas hésiter à opérer cette introspection intérieure où on va revisiter toute sa vie et essayer de comprendre le sens de sa vie. D'accord ? De manière détachée, etc. Et quand on a réussi à faire ça, donc on se libère de trois conditionnements, parce qu'il existe trois conditionnements, parce qu'il existe trois prisons. Parce que notre conscience du moi, elle est emprisonnée dès qu'un centre se met à monopoliser toute l'énergie. C'est-à-dire que nous avons trois centres, le centre mental, le centre émotionnel, le centre du moi. Lorsque le moi monopolise toute l'énergie, ça conduit à l'ego. Et donc, pour éviter ça, il faut apprendre à se détacher, comprendre que nous ne sommes pas la personne que l'on croit être. De toute façon, même quoi que ce soit que l'on croit, et dont on est conscience, nous ne sommes pas cette chose-là, parce que nous sommes un être embarqué dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Notre véritable réalité, c'est celle de soi. Et les deux autres problèmes, les deux autres prisons, sont la prison du mental, qui est probablement la plus difficile, et plus on est intelligent et plus on est emprisonné dans le mental, et c'est la prison la plus difficile, c'est très très difficile de lâcher prise, parce que c'est inconscient. Alors que l'ego, on peut arriver à s'en libérer, parce qu'on peut avoir conscience de son ego, on peut même en être fier, alors que le mental, on ne se rend pas compte qu'on fonctionne comme une machine, d'où l'intérêt des techniques de méditation. D'accord ? Donc là, on ne se rend pas compte qu'on arrête à penser. Et l'émotionnel, pour arriver à ce... Alors l'émotionnel, c'est une machine qui est très intéressante parce qu'elle permet d'éviter de penser. Donc c'est toutes les idées reçues, tous les jugements a priori qu'on a sur n'importe qui, sur soi-même, sur les gens. Il faut se débarrasser de tout ça. Il faut se débarrasser de tous les jugements qu'on peut avoir sur n'importe qui. De tout ce que la télévision et les médias nous donnent comme jugement automatique, hein, toutes les diabolisations, etc. Il faut se débarrasser de tout ça c'est... des nuisances, d'accord ? Et lorsqu'on s'est débarrassé de toutes ces nuisances émotionnelles et de tout ces, du problème du mental et de l'ego, à ce moment-là, on se connecte automatiquement, on est connecté automatiquement au soi. C'est pas la peine de. C'est-à-dire que c'est dans la nature de l'humain, c'est dans la nature de l'humain profonde que d'être connecté. Et c'est uniquement notre conditionnement social qui nous empêche de l'être. C'est dans la nature de l'humain profonde que d'être spirituel. Et c'est uniquement notre conditionnement, le conditionnement de notre société matérialiste qui nous apprend que des choses fausses sur la réalité. Je vous ai donné quatre exemples d'erreurs fondamentales qui conduisent à des dérives. Je vous ai parlé de transhumanisme, je vous ai parlé d'eugénisme, je vous ai parlé de tous les problèmes de la société actuelle, tous les problèmes de la société, tout ce dont on se rend compte qu'on va, il va falloir changer parce que la planète, on est en train de foutre en l'air. Ça vient de l'ignorance de l'existence du soi. Voilà. Donc, dans la route du temps, je donne ensuite des... Donc, je donne, alors voilà, qu'est-ce que c'est que le détachement ? Je donne un résumé pour donner des mots-clés, parce que vous avez besoin de mots-clés. Moi, j'avais besoin de mots-clés, c'est le mot-clé qui nous ont accepté le changement en ce qui nous concerne, accepter de faire des choses qui ne sont pas nous-mêmes. Pour lâcher prise, laisser agir, apprendre à laisser agir. C'est-à-dire, on a envie, dans certains cas, de sous l'emprise du mental, de dire certaines choses, ou d'agir selon certaines. Voilà, laisser agir, apprendre à s'inscrire, à se mettre dans le laisser agir. Donc, peut-être que le bouddhisme vous l'apprend. Et la confiance, alors ça, c'est quelque chose de très important et qu'on mésestime. Il faut apprendre à sortir des sentiers battus. Et c'est tout ça, c'est pas quelque chose de. En fait, c'est pas transcendant, ce sont que des efforts. Apprendre à accepter le changement, à laisser agir, à sortir des sentiers battus, ça demande simplement des efforts. Il n'y a pas besoin d'être fortiche intellectuellement ou doué ou quoi que ce soit. Les talents ne sont pas là. Les talents, ils sont au-dessus. C'est pas là qu'il y a des talents, c'est là qu'il y a de l'apprentissage. Donc il faut apprendre à faire les efforts. Du détachement, de la surprise et de la conscience pour sortir des trois prisons, ce qui permet d'activer l'une des trois connexions, si ce n'est les trois. Et les trois connexions au soi, la connexion mentale au soi, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Bon, moi, j'ai beaucoup besoin de beaucoup d'intuition dans ma carrière, dans ma vie, parce que je suis un chercheur, un innovateur, etc. Ma méthode, ce n'est pas de faire de la méditation, c'est de faire de grosses randonnées en elle-même, d'où le fait que je. La roue du temps qui fait une métaphore entre la randonnée en montagne et l'arbre de vie. Bon, c'est ça. Mais il existe la connexion émotionnelle en soi, pour laquelle il n'y a pas besoin d'autre chose, qui est installée par la confiance en soi, qui est la foi religieuse, la foi du chef d'entreprise, toutes les sortes de foi, la foi étant le contraire d'une croyance. La foi, c'est opposé aux croyances. Les scientifiques ont tendance à diaboliser les personnes qui ont la foi en disant que ces personnes-là ont des croyances. C'est exactement l'inverse. Ce sont les scientifiques qui sont bourrés de croyances, alors qu'une personne qui a la foi n'est pas dans une croyance. Une croyance, c'est le mental. Il ne faut pas confondre. Et donc, voilà. Et puis, pareil, pas besoin d'être intelligent pour donner le meilleur de soi. Donner le meilleur de soi, c'est ce qui va installer automatiquement la connexion au soi, sans passer par le mental, sans passer par... On retrouve tout un tas de préceptes. Voilà. Bon, je pense que c'est assez clair. Diapositivement. Et donc, d'où la théorie de la double causalité, parce que lorsque vous vous connectez au soi, vous vous connectez directement à votre futur, parce que la couche de densité d'information à laquelle vous vous connectez, c'est la couche qui change l'emplacement de votre tunnel de vie. D'accord ? C'est, en fait, il y a un problème avec le temps, c'est que le futur et le passé, tel qu'on l'entend, ne sont pas des choses à attendre, ce sont des choses qui sont déjà dans le présent. Notre vrai futur, il s'inscrit dans le temps réel et non pas le temps illusoire, il est perpendiculaire à ça. Et donc il faut aller le chercher dans l'information qu'on trouve perpendiculaire à ce tunnel de vie. Et c'est quoi? C'est l'information liée aux densités inférieures, donc l'information liée au soi. Et lorsqu'on se connecte au soi, on modifie directement son futur sans passer par le présent, sans passer par la causalité. C'est-à-dire que votre tunnel de vie, et on peut prendre d'autres métaphores, va bouger quelque part, il va se déplacer, nos intentions vont exciter le vide quantique, et n'oubliez pas qu'il existe des zones de faible densité, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, qui font que le présent n'est pas relié au futur, n'est pas partout relié. Le présent peut être relié, notre futur peut être parfaitement défini, mais peut être relié par un fil à notre présent. Ce fil ne se déroulant qu'après. Notre futur peut être densément configuré avant ce que nous allons vivre avant. Enfin, c'est-à-dire que tout est en place pour permettre une véritable influence du futur sur le présent. Et comme notre soi va bouger notre futur et qu'il existe des zones de faible densité. Attention, ces zones de faible densité, il faut quand même les créer. Pour ça, il faut soit partir en vacances, soit sortir des sentiers battus, etc. Il faut changer de mode de vie. D'accord ? À ce moment-là, le futur sera bien obligé de créer le présent et c'est ce qui va créer la rétrocausalité dont je parle dans ma théorie de la double causalité, que je résume en disant que les coïncidences dont on ne comprend pas nécessairement le sens, mais des fois on peut comprendre la question posteriori, vient du fait que ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur, et les véritables synchronicités, celles qui nous font sens, c'est-à-dire en les vivant, on découvre, on a l'impression que l'univers cherche à concourir à ce qu'on a envie de faire. C'est nos intentions que des effets dans le futur qui deviennent à leur tour une cause d'effet dans le présent. Voilà. Donc, diapositivement. Alors, pour terminer, je vais parler de deux lois, qu'on appelle la loi d'attraction et la loi de la répétition. La loi d'attraction, je vous ai déjà fait un peu sentir, parce que les conséquences de tout ça, c'est que tout simplement, nous attirons les réalités que nous pensons. Hein. C'est-à-dire que notre état d'esprit détermine nos futures réalités à vivre, que ce soit dans le conditionnement ou dans la vibration, Mais par contre, chose très importante, quelque chose qui est très très courant, c'est qu'il y a aussi une résistance du futur. C'est-à-dire que lorsque vous allez chercher à faire des choses nouvelles que vous n'avez pas l'habitude, vous voulez changer votre vie, vous voulez sortir de votre conditionnement, etc., etc., l'espace-temps, il a une constante de temps. L'espace-temps a besoin de temps. Votre futur a besoin de temps. Il ne va pas basculer comme ça instantanément. Ça va se faire de manière fluide. Ça va être des probabilités qui vont être denses à certains endroits, non denses à d'autres, qui vont concurrencer d'autres probabilités, tous les futurs probables qui vont être denses à certains endroits et pas à d'autres, à l'intérieur desquelles des lignes vont circuler et vous ne savez pas d'avance quelle ligne vous allez réellement emprunter parce que tout ça, c'est encore fragile et en mouvance perpétuelle. D'accord ? Et donc, si vous avez effectivement, vous avez l'impression d'être rentré sur un chemin, vous avez fait une rencontre, vous avez trouvé une maison, vous avez trouvé enfin, des choses importantes qui changent la vie, vous avez l'impression que ça y est, vous êtes parti sur un nouveau chemin, etc. Mais la moindre des fragilités risque de faire ressurgir votre ancien futur. Il est important de parler en termes d'ancien, nouveau, passé, futur. L'ancien et le nouveau, ça correspond au temps réel, perpendiculaire, que les physiciens appellent d'ailleurs temps imaginaire. Et c'est une coïncidence. Ce qui dépend bien de l'imagination. Donc, habituez-vous à parler en termes de. La physique nous apprend aujourd'hui carrément qu'il existe un passé et un futur, mais on pourrait aussi parler d'un ancien et d'un nouveau. Donc on peut parler d'ancien passé, de nouveau passé, d'ancien futur et de nouveau futur. Donc vous êtes perpétuellement votre état d'esprit, vos états de conscience sont perpétuellement en train de modifier les probabilités, que ce soit dans votre nouveau futur ou dans votre ancien futur. Donc, votre ancien futur peut réapparaître subitement et c'est ce qui crée toutes les lois de l'envergure au maximum qu'on peut connaître. Que ce soit à petit niveau, donc, on appelle ça la loi de Murphy, j'ai trouvé des mots que j'ai beaucoup vécu dans ma carrière d'ingénieur où j'ai fait des centaines de démonstrations et j'ai fini par comprendre que la réussite d'une démonstration dépend de l'état d'esprit. Beaucoup plus que du travail. Et les projets difficiles, les décisions qui changent la vie ou dont la réalisation est encore aléatoire. Je vous donne un exemple, le jour où j'ai fait l'acte, où j'ai signé l'acte qui allait vraiment changer ma vie complètement, ce jour-là exactement, où j'ai changé ma vie, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Dépanneuse et compliquée, alors que je ne suis jamais tombé en panne de ma vie. Est-ce que c'est un hasard? Voilà, c'est à vous de juger. Voilà. Et les changements de paradigme au niveau collectif, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tirés par un ancien futur de notre société matérialiste qui est en train de nous amener à devenir des consommateurs qui vont ensuite devenir du détail, des esclaves, etc. Tout ce qu'on peut imaginer, toutes les dérives qu'on peut imaginer, que le film Cloud Atlas que je vous conseille de regarder, dont il parle, il ne parle pas de choses, il parle véritablement de choses qui risquent d'arriver. Et donc, les changements de paradigme, le grand changement de paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui, on est soit on va vers, soit c'est le matérialisme qui gagne et on va vers ce truc dramatique. Soit l'homme prend conscience de sa véritable nature qui est spirituelle, et à ce moment-là, on va vers un futur que certains appellent l'âge d'or, etc. Bon. Diapo suivante, pour résumer ce qu'on appelle la loi de l'attraction, il y a quelque chose à laquelle il faut faire très attention concernant ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est que la loi d'attraction issue du nouvel âge, du âge et compagnie, de tout le business anglo-saxon qu'on fait autour de ça, à 90%, il y a une confusion entre le soi et le moi, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux gens à faire attention au fait qu'ils ne sont pas en conscience, qu'ils ne sont pas cette identité qui veut l'argent, qui veut le bonheur, trouver l'amour, etc. Franchement, il faut sortir de ce merdier épouvantable qui est en train de dénaturer une vérité fondamentale. Cette vérité fondamentale, c'est ce qu'on a appelé la loi de l'action, mais qui est en fait une loi physique et qui vient du fait que, dans le sens du passé, les choses ont tendance à s'ordonner. Dans le sens du... Et lorsque vous créez une réalité dans votre futur qui n'est pas vécue, il faut bien que l'univers la crée, et l'univers la crée en suivant une loi qui consiste à minimiser l'information, c'est-à-dire à ordonner l'information. C'est ça qui crée non seulement les synchronicités, mais qui explique toutes les autres synchronicités, que ce soit astrologique, numérologique, etc. J'aurais pas dû le dire, mais j'ai cru en fait. Et pour arriver, en tout cas, à créer ce futur-là, qui va, si vous voulez, il y a une nuance à faire, c'est-à-dire que ce futur-là, vous le créez avec votre libre arbitre, mais ce futur-là, il ne faut pas oublier qu'il est créé mécaniquement. Donc vous allez quand même continuer de trouver des lois mécaniques dans ce futur que vous allez parcourir, et pourtant il est nouveau, il a été créé par vous. Donc c'est tout là, donc ça c'est à méditer. Et donc se souvenir que pour arriver à créer la magie du hasard qui n'existe pas, le détachement, le lâcher prise et la confiance sont les trois efforts fondamentaux. Savoir dire non, c'est très important parce que il y a des expériences qui ont été faites, notamment les expériences de Libé, qui ont montré que nous n'avions pas de libre arbitre. Sauf dans le cas où nous savons dire non. Dans le cas où il s'agit simplement de prendre une décision, la plupart du temps, nous n'avons pas de libre arbitre. Par contre, lorsqu'il s'agit d'annuler la décision, les expériences scientifiques ont montré que là, le libre arbitre est possible. C'est-à-dire que la conscience, elle est consciente avant que le cerveau mette en branle cette annulation. Il existe aussi, cela dit, un libre arbitre qui vient de soi. Et celui-là, il faut pacifier parce qu'il est difficile à atteindre. Et quand on est dans des états tout à fait terribles, on ne peut pas. Disons, celui qui cherche des recettes ne doit pas se fier à son soi. Par contre, lorsqu'on a activé son soi, on a une rétrocausalité. Là, le fait que donc, la conscience apparaisse après l'état cérébral est tout à fait normal. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, savoir dire non, le non est plus important que le oui pour se libérer. Et puis, donc, se souvenir des trois états qui correspondent aux trois centres de la conscience. Voilà. Diapositivement, je ne vais pas se finir là. Ah, bah oui, alors donc, vous trouverez plus d'informations dans mes deux livres. Alors, je ne sais pas lequel vous conseillez. La route du temps, c'est mon premier livre, mais c'est une édition revue augmentée qui est parue l'année dernière, donc c'est bien enrichi, et qui relate donc le processus de réflexion métaphysique par lequel je suis arrivé à cette théorie, et surtout les expériences que j'ai vécues. Voilà, et donc c'est toute la différence avec le second livre, la physique de la conscience, qui est plus abouti sur le plan théorique, mais qui ne parle pas de mon vécu, par contre qui va beaucoup plus loin, et qui parle qui va bien au-delà des phénomènes de synchronicité. Voilà, diapositivement. Et pour finir, donc, il va sortir à mi-septembre un film documentaire sur la physique de la conscience, en fait, qui va s'appeler La route de la conscience, qui est la synthèse donc, de ces deux livres, justement, qui s'appelle La route de la conscience, du temps, du conscience, réalisé par Jean-Yves Billien. Donc c'est un documentaire d'une heure qui est filmé sur la route du temps, où on fait un petit peu le parallèle entre la randonnée et la réflexion métaphysique, un peu dans l'esprit de la route du temps, et où vous allez retrouver, synthétiser en une heure, donc tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc je vous remercie.
micro pour quelques questions.
Oui.
Vous levez la main et on tend le micro.
Oui, alors moi je vais avoir une petite série de questions. C'est là.
Ouais.
Alors quand tu dis que la conscience et l'âme animent le vivant,
oui.
Est-ce que tu attribues ça aussi au règne animal et végétal ou...
Oui. C'est-à-dire que voilà, concernant les animaux. Les animaux ne développent pas une conscience de type social, c'est la nôtre, donc ils ne développent pas leur conscience du moi. Donc ils fonctionnent essentiellement au niveau de l'animal. Et par contre, ils ont un soi, et cette liaison avec le soi correspond à, tout simplement à l'instinct animal.
Voilà. Et dans le monde végétal?
Dans le monde végétal, je pense qu'il y a également un soi, simplement on part dans des soi qui deviennent de plus en plus collectifs. C'est-à-dire que plus on monte en règne, plus on va vers l'individualisation. Et au niveau animal, on peut aller vers l'individualisation également. Par exemple, si on prend le cas des animaux domestiques, je pense que l'animal domestique est celui dont l'âme est la plus proche de l'homme, donc qui commence à développer un moi, on peut dire.
Quand tu parles de matérialité et que la matière n'existe pas, est-ce que ça a du sens d'aller chercher en astronomie une planète qui pourrait être habitable par l'homme?
Ah oui, c'est
carrément un non-sens.
Non, mais lorsque je dis que tout est conscience, ça ne veut pas dire que ça ne transforme pas la réalité telle qu'on la perçoit. Alors, pour vous faire une idée, voilà, je pense qu'il est plus légitime de penser que la matière est une cristallisation de la conscience plutôt que la conscience un sous-produit de la matière. Parce que quand on parle de la matière, on parle seulement du niveau physique. Et on ne considère pas que les informations physiques soient de la matière. Dans ce cas-là, il faut changer de terminologie, garder la matière pour ce niveau physique. Si on veut englober l'ensemble des informations, il faut utiliser le terme adéquat. Et le terme le plus adéquat, c'est la conscience. Sauf que la conscience, elle n'est pas consciente partout. Donc elle est consciente au niveau de la densité dans laquelle on se trouve. D'accord ? Les animaux vont se trouver inférieurs au niveau de la densité dans laquelle ils vivent. Ils vont se retrouver à un niveau plus instinctif. Ils vont se retrouver dans l'animal sans libre arbitre. Un être éveillé, très éveillé, va se trouver au-dessus du moi, il va ressentir la joie, il va ressentir ce qu'on appelle l'éveil du
physique,
la conscience qui arrive à s'élever au niveau du soi, même si elle n'y est pas encore, parce qu'il est encore incarné. Voilà. Donc la conscience, elle est beaucoup plus malléable. La conscience est quelque chose qui est capable de se balader dans les étages, alors que la matière, elle est située donc dans là. Donc il vaut mieux dire que la matière est produite de la conscience, plutôt que la conscience produit de la matière à la sortie.
Oui.
Celui qui veut appeler conscience, celui qui se fait une idée de la matière qui lui permet de considérer que la conscience est une matière moins dense, pourquoi pas? Et donc, ceci n'a rien à voir avec le fait que les étoiles dans les autres galaxies existent, etc. La matérialité apparente, elle est concernée. Ça ne pose aucun problème. C'est pas le fait de...
Donc il y aurait une matérialité en dehors de la conscience. C'est bien de contredire ce qui est donc perdu.
Non, mais tout dépend sur quel référentiel on se positionne, d'accord ?
Le référentiel, c'est ma propre conscience, ta propre conscience.
Notre propre conscience.
Crée le monde.
Voilà, crée le monde, oui, crée le monde tel que...
Donc il n'y aurait pas de raison d'aller chercher un monde ailleurs.
Bon, on passe à d'autres questions. Oui.
Prends le micro.
Quand vous avez dit que le temps et l'espace n'existent pas, j'ai pensé à ce qu'on appelle la catégorie de l'a priori, c'est-à-dire des filtres nécessaires pour percevoir.
et pour se représenter les choses. Quand c'était une question, est-ce que ça peut avoir un rapport? Le deuxième élément, je me demande si les termes ou les concepts de matérialisme et spiritualisme ne sont pas déjà un découpage, oui, ne correspondent plus à des schémas de pensée ou des représentations évolutives dont je parlais actuellement. Et pour le reste, j'ai énormément pensé à la philosophie bouddhiste, effectivement.
Oui.
Mais aussi à un moment, vous avez parlé d'un paradoxe concernant à la fois que quelque chose qu'on peut à la fois déterminer et libre. Et libre.
Oui.
Et j'ai pensé à la limite.
Oui.
Voilà, donc je veux savoir si c'est des associations que j'ai faites qui sont gratuites.
Le modèle de la conscience dans tous les étages de la jeune, avec la distinction entre l'identité verticale et la conscience qui sera plutôt horizontale, c'est quelque chose qui est très en activité avec les modèles de la conscience. Le lien avec le bouddhisme est clair également. Les questions posées par Kant, on retrouve tous des candidats. Trouve également des réponses latentes. C'est-à-dire que de tout temps, les philosophes se sont interrogés sur la nature de la matière et de la conscience. De tout temps, ils ont ressenti qu'il y avait un lien très, très fort. En fait, la matière, pour mieux comprendre, la matière, c'est simplement la conscience manifestée dans la réalité. C'est-à-dire que notre réalité n'étant que 1 sur 10 puissance 120, un quotient de l'information. On ne peut qu'aboutir à cette conclusion. Et les physiciens actuellement, pour des raisons uniquement techniques et pratiques, ne veulent pas revenir à cette discussion parce que ça aboutit à un vide considérable et leurs équations ne peuvent plus utiliser leurs équations. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait de ne plus pouvoir utiliser les équations parce que mon expérience d'ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle m'a appris qu'on pouvait remplacer les équations par les algorithmes et qu'en remplaçant les équations par les algorithmes, on pouvait fabriquer des systèmes beaucoup plus performants. D'accord ? Infiniment plus performants. C'est-à-dire que, en voulant décrire la réalité avec des équations, à mon avis, on se met un boulet. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les équations ne sont pas fondamentales. Alors qu'en passant à un niveau cybernétique, à un niveau algorithmique, c'est-à-dire on fait des calculs, on reste dans la logique, on reste dans la raison, on reste dans tout ce que vous voulez, le rationalité, le cartésianisme, on arrive à décrire la réalité de manière beaucoup plus fluide et à expliquer tous les phénomènes dont j'ai parlé, qui sont censurés. Hein. Ma vision de l'espace-temps, c'est celle d'un physicien qui possède les outils pour traiter une information qui évoluerait simultanément dans le passé et dans le futur. Alors que les matheux n'ont pas assez. D'accord ? Mais je suis matheux. Mais si je voulais utiliser que ces équations, je ne pourrais pas décrire une réalité qui évolue simultanément dans le passé et dans le futur. Voilà.
Vous avez parlé de la croyance et de la foi, donc effectivement la croyance c'est dans le mental, mais c'est pas la foi. Je voulais en dire un peu plus sur ce qu'est la foi.
La foi, par définition, c'est la connexion réalisée entre l'émotionnel et le soi. Le soi au sens étendu, c'est-à-dire notre identité dans la dimension qui sera la dimension dans laquelle on est amené à aller après la mort. Et donc, par définition, je définis la foi comme étant cette connexion-là. C'est par définition. C'est tout. Et ça correspond bien à ce que ressentent
pour les personnes douées de foi avec qui j'ai eu l'occasion de changer. Oui.
Si j'ai bien compris. En fait, dans votre culture, on s'éloigne de cette conscience, en tout cas, vers cette culture qui est fermée. Est-ce que ça veut dire qu'avant, on était plus proche de cette conscience-là, ou qu'en fait, ce chemin vers la foi, la confiance, etc., individuel et collectif, passe par cet endroit du mental, dont après il y a la lâcher prise?
Alors, je pense qu'avant. Avant donc le siècle de lumière, etc., qui a imposé la science au monde, on était dans le religieux, et le religieux, c'est une façon de mettre de l'ordre et surtout d'éviter aussi le fait que le public ait connaissance de choses qui ne sont pas maîtrisées et qui peuvent créer du désordre, hein, je les chasse aux sorcières et compagnie. Il est évident qu'à partir du moment où on ne connaît pas la physique de l'au-delà, on ne comprend pas cette physique-là, c'est la porte ouverte à tout un tas de dérives et il faut y mettre de l'ordre, et cet ordre a été mis par les religions qui ont dit non, ne croyez pas en ceci, ne croyez pas en cela. Par contre, oui, croyez en la transcendance. Donc, la religion, c'est un tremplin pour permettre à une humanité en évolution, encore à l'état de bébé, d'arriver à passer de l'état sauvage animal à l'état humain qu'on n'a pas encore atteint. Il faut passer par la religion pour aller à la science, pour aller vers la science. Et ensuite, la science, ça l'oblige de bien se faire. C'est-à-dire que la science et la spiritualité doivent à terme fusionner. C'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, elle est fondamentalement scientifique, elle est justifiée par de la logique mécanique, mais pas la mécanique dans le temps ordinaire, mais mécanique qui est plutôt dans le temps réel et qui vient intervenir la conscience. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oh, mais ça, c'est un peu intime, hein. C'est très intuitif, c'est très. J'en ai parlé dans mon bouquin avec toutes les précautions nécessaires pour bien aussi le contexte. Ce serait trop long de développer tout le contexte qui m'a mis en face de cette pratique, qui n'est plus aujourd'hui une pratique, mais qui est intégrée, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, il faut faire certaines pratiques pour arriver à. Voilà, pour certaines habitudes du sel, mais une fois qu'on a pris ces habitudes, on parle plus d'ange, on parle plus de non, parce que quand on va faire un tour, on va faire une balade. On sert à l'esprit.
Oui,
incroyable information On peut l'identifier tout simplement à la conscience collective. Ce que j'appelle la résistance du futur, ce que j'appelle la résistance du futur, c'est tout simplement la difficulté de suivre un chemin qui n'est pas conforme à la conscience collective. Il est clair que la conscience collective trouve là, à travers ce modèle, une description physique. Parce que nous co-créons tous, nous sommes tous embarqués dans la même réalité. Nous ajoutons tous, chacun d'entre nous, notre pierre à l'édifice du futur. Donc le futur contient la conscience collective. C'est la raison pour laquelle les phénomènes inexpliqués ne sont pas encore structurés, les scientifiques n'arrivent pas à les expliquer, c'est à cause de la conscience collective qui les empêche d'aller sur ce terrain, et moi je fais volontairement un travail de SAP à ce niveau-là pour qu'on y aille. C'est-à-dire dans le travail, je cherche à faire en sorte que les scientifiques en priorité prennent conscience de la réalité de la vie et que les jeunes physiciens y aillent carrément.
On peut poser une question encore ?
Oui.
J'aurais voulu savoir si tu étais créationniste. Et puis, j'aurais une deuxième question. Comment tu pourrais expliquer que le monde, donc, comme on le connaît, le monde matériel, se révèle uniquement dans cette très fine bande du champ électromagnétique qui est visible? Parce qu'en fait, la première phrase de la Bible qu'on trouve, c'est que la lumière soit, et on sait que la lumière révèle la matière.
Oui.
Voilà, est-ce que toi, tu adhères à cette...
Alors, il ne faudrait pas confondre le fait qu'il y ait une très fine bande de la réalité qu'on appelle visible avec la différence que je fais entre notre réalité et la quantique. Parce que toutes les autres bandes non visibles font partie de la réalité physique. Il ne faut pas confondre l'électromagnétisme et les vibrations de l'espace. Les vibrations de l'espace, on est dans l'immatériel. L'électromagnétisme, on est dans le matériel. Ça ne veut pas dire que pour une molécule physique, il n'y a pas des astuces à trouver pour combiner les deux de manière à créer des phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure que vous devinerez, mais il ne faut pas confondre. On est d'un côté dans le matériel, de l'autre côté, c'est dans la réalité, et notre réalité n'est pas que matériel, hein, elle est faite de lumière aussi. Mais quand je parle de matière, je parle aussi de cette lumière.
Donc cette lumière, la matière est révélée par la lumière. Il n'y a pas de matière qu'on ne peut qu'on puisse avoir en
rond. Voilà, la matière c'est des photons, la lumière c'est des photons, c'est pareil de matériel, même si ça n'a pas de masse. Et même la lumière qu'on ne voit pas, ce sont aussi des photons, c'est quand même matériel, même si on ne la voit pas. Donc, il n'y a pas d'analogie à faire à ce niveau-là avec ce que je raconte.
Si c'est la dernière question, peut-être.
Il faut parler d'amour et de femmes.
Je veux parler d'amour
et de femmes.
Je pense que l'énergie fondamentale de la réalité, c'est l'amour. C'est-à-dire on peut identifier l'amour, en première approximation, avec ce qui serait l'équivalent de la lumière dans le domaine immatériel, c'est-à-dire l'énergie.
Parce qu'il paraît que ceux qui font les pieds stardiennes, c'est qu'ils ont le cœur fermé.
Oui, c'est pas grave. Bon.
Mais c'est quoi le bilan?
Le Big Bang, vous allez éventuer, bon, la dernière question. Hein. Lorsque, à partir du moment où le temps n'existe pas, et où la réalité ne se crée pas du passé vers le futur, mais de manière perpendiculaire, le Big Bang, on n'en a rien à tirer.
Ouais, surtout il n'y a pas de souci.